20h, 21h. Georgie. Flavie Flamand sur RTL.
Georgie, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre Georgie est le 8 juillet 1982. La France affronte l'Allemagne de l'Ouest en demi-finale de la Coupe du Monde à Séville. Un match d'anthologie qui laissera une marque indélébile dans l'histoire du football. Nous sommes le 8 juillet 1982 au stade Pirouane de Séville. Il est 21h. Devant 70 000 spectateurs, l'équipe de France de Michel Platini affronte la RFA de Paul Breitner. Une autre époque, celle où l'Allemagne était coupée en deux pour quelques années encore. Ce soir-là, l'enjeu est de taille pour les Bleus. Ils sont en demi-finale de la Coupe du Monde. Ils ne le savent pas encore, mais ils sont sur le point d'écrire l'histoire. L'équipe de France du carré magique de Giresse, Tigana, Gengini et de son chef d'orchestre Michel Platini est une équipe romantique, belle à voir jouer. Ce soir, elle affronte la redoutable Allemagne, froide, au mental d'acier, au football physique, trop physique même, à l'image de son gardien, Harald Schumacher, que l'on surnommera après cette rencontre le boucher de Séville. Le match démarre mal pour les Français. Lidbarski ouvre le score à la 18e minute. Piqué, les Français réagissent et à peine 10 minutes plus tard, l'ange vert Dominique Rocheteau est accroché dans la surface allemande. Pénalty pour la France. Platini se saisit du ballon, l'embrasse, frappe et égalise, un but partout. Les Français sont de retour et les Allemands sont acculés. C'est à partir de là que le gardien allemand Schumacher lance les hostilités et commence à multiplier les fautes. D'abord sur Platini, puis sur Rocheteau, puis sur Didier Six. Mais l'arbitre ne dira rien. À la mi-temps, les deux équipes sont toujours à égalité, un but partout. C'est peu avant l'heure de jeu que l'histoire bascule. Patrick Battiston, rentré à la 50e minute sur le terrain, est lancé en profondeur par Platini. Il se retrouve face à Schumacher et tire à côté, avant que le gardien allemand en retard ne vienne lui heurter le visage avec la hanche. Battiston reste à terre. Le ralenti est clair, le gardien allemand s'est littéralement jeté en l'air, la hanche en avant.
Bonne balle de Platini pour Battiston.
À côté.
Aïe, c'est pas vrai.
Et encore une fois, Schumacher.
Il a pas fait le voyage.
Non, regardez où il va mettre son pied, Schumacher. Regardez. Voilà.
Ah oui.
Sur le banc de touche français, on demande des sanctions. Mais une fois encore, l'arbitre ne siffle pas pénalty, pas de carton rouge, rien. Battiston, lui, est toujours au sol. Il sortira sur civière, la main tenue par son ami et capitaine Michel Platini. Dans le choc, Battiston aura 3 dents cassées et une vertèbre fêlée. Tombé dans le coma, il sera transporté à l'hôpital. Si l'arbitre n'a pas vu la faute, ça n'est pas le cas des spectateurs. L'équipe de France est désormais soutenue par le public espagnol et Schumacher est tué à chaque prise de balle. En deuxième mi-temps, aucune équipe ne fait la différence. Amoros frappe la barre du but allemand à la 89e minute. Les Français dominent mais ne marquent pas. La France et l'Allemagne vont jouer les prolongations. Après 3 minutes de jeu, le défenseur Marius Trésor envoie au fond des filets une reprise de volée extraordinaire. L'équipe de France mène 2-1. Puis quelques minutes plus tard, Didier Six donne un ballon en retrait à Alain Giresse qui frappe poteau rentrant, 3-1 pour l'équipe de France. Giresse court, ivre de bonheur, plus rien ne peut les arrêter. Il ne reste quelques minutes à jouer, on voit mal comment la France pourrait alors perdre ce match. Plus tard, Dominique Rocheteau dira « On menait 3-1 et pourtant on avait la trouille ». Karl-Heinz Rummenigge, entré en jeu quelques minutes plus tôt, réduit le score. La France ne mène plus que par un but d'écart et les Allemands poussent encore et encore. Jusqu'à la 108e minute, centre de Lidbarski, tête de Rubesch, retournée de Fischer. Le gardien français Jean-Luc Ettori n'a rien pu faire. Alors qu'il menait par 2 buts d'écart, les Français sont de nouveau à égalité, 3 buts partout. Le score en restera là et pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde de football, un match va se jouer au tir au but. Giresse, Amoros puis Rocheteau envoient le ballon au fond des filets. Le tir de Stilicke est arrêté par Ettori, la France peut prendre l'avantage, mais Didier Six échoue, égalité toujours. Platini puis Rummenigge transforment leur tir au but. Puis vient le tour du grand Maxime Bossis, les jambes lourdes, les chaussettes baissées, il s'élance, il frappe et voit son tir arrêté par Schumacher. Côté allemand, Horst Rubesch, lui, ne tremble pas et envoie son équipe en finale. La France n'affrontera pas l'Italie. Sur le terrain, elles sont bien là. Elles coulent sur les joues des joueurs français les larmes de Séville. Dans le vestiaire, ils étaient une trentaine, joueurs comme dirigeants à pleurer comme des gosses, dira Marius Trésor. Ce sentiment que pour nous, rien ne serait plus jamais comme avant. Tous ces mecs qu'il fallait pousser sous la douche. J'ai compris ce soir-là que nous venions de vivre un moment inoubliable, ajoutera-t-il. De ce match, Platini dira que c'était un match où il y a tout, tous les sentiments, les sensations. Ce n'est pas le football, c'est la vie. Aucun film, aucun livre, aucune pièce de théâtre ne peut te faire vivre un moment pareil. Tu ressens, en 1h30, toutes les émotions possibles. Pour beaucoup, ce match restera dans les mémoires et sera celui d'une génération. Plus tard, la simple évocation d'une ville, Séville, évoquera de douloureux souvenirs où se mêlent tristesse et injustice. Ce soir-là, ce fut le drame de Séville. 8 ans plus tard, en 1990, l'équipe d'Angleterre est éliminée elle aussi par l'équipe d'Allemagne, elle aussi en demi-finale de la Coupe du Monde, elle aussi au tir au but. Après ce match, le joueur anglais Gary Lineker prononcera cette phrase restée célèbre et qui illustre parfaitement le drame de Séville. Le football est un sport simple. 22 hommes courent après un ballon pendant 90 minutes et à la fin, ce sont les Allemands qui gagnent. Bien sûr, depuis, l'équipe de France a gagné, mais toutes les victoires du monde ne sécheront jamais les larmes de Séville. Dans un instant, Pierre-Louis Basse, écrivain et journaliste, sera notre invité jusqu'à 21h. Et cadeau, Alain Giresse, qui était sur le terrain, nous fait l'honneur de revenir sur ce 8 juillet 1982. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J sur RTL ou en podcast. Jour J, vous l'avez compris, qui vous emmène ce soir sur la pelouse du stade Pirouane à Séville. Le 8 juillet 1982, la France est battue en demi-finale de la Coupe du Monde par l'équipe allemande. Un match, je le disais, d'anthologie qui a marqué toute une génération de supporters comme une plaie qui ne s'est jamais véritablement refermée. Pierre-Louis Passe, bonsoir.
Bonsoir, cher Flavie Flamand.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes écrivain, vous êtes journaliste et on vous doit parmi vos nombreux ouvrages Séville 82, France-Allemagne, le match du siècle, en poche aux éditions La Table Ronde. Depuis qu'on prépare cette émission, à chaque fois que je parle de ce match, je sens une sorte de fracture dans le regard de ceux qui croisent le mien. C'est-à-dire, j'ai l'impression, effectivement, de réouvrir une clé. Ça vous fait quoi quand on dit France-Séville 82 ?
Toujours cette émotion, quel que soit le temps qui passe. C'est la beauté du sport quand il s'incruste dans votre mémoire, grâce à l'histoire. Alors, c'est un match très particulier, Platini l'a dit. Bien sûr, il y a tout. Il y a l'espoir, la victoire qui est là, puis finalement la défaite. Il y a l'Allemagne, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et vous avez raison, il y a deux Allemagnes. Il y a un pays très, très... On a presque envie de dire c'est un pays ancien. Moi, c'était autant un livre sur ce match que sur ma jeunesse que j'avais écrit.
Bien sûr.
Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, en effet, c'est que vous avez quelques événements comme ça dans l'histoire du sport qui restent, qui demeurent, quelles que soient les années. Vous avez Séville, qui est une défaite pourtant, et c'est aussi ça qui m'intéressait, pourquoi j'ai écrit ce livre, parce que la défaite, je le dis encore aujourd'hui, elle fait partie de la vie, elle fait partie des échecs, et je vais peut-être vous scandaliser ou scandaliser quelques auditeurs en disant que aujourd'hui encore, comme spectateur, j'avais 22 ans à l'époque, je préfère la défaite de Séville à la victoire de 98.
Alors,
ça ne veut pas dire que j'ai pas été heureux et comme journaliste, comme nous tous ici.
Mais le match avait toute la dramaturgie, c'est ça qu'on entend. On demandera à Alain Giresse justement si ça reste l'un des matchs les plus importants de sa carrière et vous entendrez sa réponse parce qu'effectivement c'est le sport qui laisse une trace indélébile dans la mémoire de ceux qui étaient devant. Vous aviez 22 ans, moi j'étais toute petite, j'avais 6 ans, voilà. Et je pense que si mon père était encore en vie, effectivement, il écouterait cette émission avec énormément d'attention parce que ça a dû le marquer. On est en 82, la France elle est pas encore dans le football ce qu'elle est aujourd'hui. C'est ça aussi qui a fait que c'est un match important, c'est-à-dire qu'elle n'avait jamais atteint ce niveau finalement des demi-finales d'une Coupe du Monde.
Non, bien sûr, elle était en 58, elle atteint les demi-finales en 1958 avec une génération différente, celle de Coppa et de mais là c'est très différent. Le football français commence réellement à exploser en club, en tout cas avec Saint-Etienne, on en dira un mot, en 76, mais il n'est pas encore spectacularisé par la télévision. D'accord. Spectaculaire. Et puis, c'est vrai que les victoires ne sont pas là. Mais il y a une génération qui s'est créée en 78, avec Platini notamment, qui est en Argentine. Et on se dit, c'est une amorce, c'est comme un original qui va devenir presque une copie avec cette génération. On est déçus en Argentine, c'est une Coupe du Monde gagnée par l'Argentine elle-même, mais on a vu quelque chose naître avec Platoche. Et puis, 82, 4 ans plus tard, on va voir cette génération qui est exceptionnel, je vais vous dire, c'était les expressions que j'avais, des fulgurances dans mon livre, mais je le redis aujourd'hui, c'est un merveilleux suicide collectif, parce qu'on pouvait gagner, et on a continué de jouer, et c'est magnifique. Dans 150 ans, on en reparlera. On en reparlera parce que le temps n'a pas de prise sur des joueurs qui jouent réellement et qui ne font pas semblant de jouer. C'est ça la beauté du sport.
Et le temps n'a pas de prise non plus sur les émotions qui restent vivaces, et on l'entend bien quand on vous écoute. On va se retrouver dans un instant, vous allez nous raconter ces deux équipes justement qui se sont fait face, et puis on va revenir sur ce match d'anthologie. Vous l'avez compris, où finalement, comme le disait Platini, il y avait absolument tout. A tout de suite en direct dans Jour J.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Jour J spécial ballon rond avant le match à venir en direct sur RTL à 21h avec la rencontre Lille-Séville. Et à propos de Séville, c'est là que l'on vous emmène ce soir pour revivre avec notre invité Pierre-Louis Basse un match inoubliable qui, presque 40 ans plus tard, fait encore mal à certains, une sorte de blessure pour toute une génération de supporters et en même temps un match, vous le disiez, Pierre-Louis Basse, absolument magnifique et inoubliable, même avec la défaite de la France face à l'Allemagne.
Tellement inoubliable que votre assistant,
Bastien, qu'il est journaliste,
parce que j'ai 40 ans maintenant.
Voilà, Bastien qui a 25 ans, qui est journaliste, sans lequel je ne serais rien. Quand il s'agit de parler de football. Oui, mais Bastien qui a 25 ans connaît le match par cœur.
Ouais, mais c'est tout à fait. C'est l'histoire de Killy ou de Platini. On n'a pas besoin d'être né avec l'arrêt de la carrière de Platini en 87 pour savoir que c'est un monstre extraordinaire, un homme qui voyait tout derrière lui sur le terrain et qui reste. Voilà. Et Killy, c'est pareil. Là, on est dans le ski. Mais voilà, vous interrogez une génération.
On va rester dans le foot si ça vous dérange pas, parce que j'ai bien bossé l'émission. Alors, s'il faut que je me mette au ski, ça va être compliqué. Non. Alors attendez. Au-delà du sport, justement, est-ce que c'est pas aussi l'histoire avec un grand H qui se joue lors de cette rencontre France-Allemagne?
Alors, c'est une histoire qui se joue, et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre en 2005.
C'est 82.
Bien sûr, moi j'ai 22 ans à l'époque, je suis un intello pénible pour mes parents, le foot, et je devine pas que 4 ans plus tard, je vais retrouver les joueurs qui étaient sur le terrain et les côtoyer. Il y a deux Allemagnes, il y a une Allemagne forte avec il faut imaginer cette période, un Marc très fort, une gauche qui arrive, des ministres communistes pour la première fois depuis la libération, on est en 82, la rigueur arrive. Mais en attendant, le Marc fort et l'Allemagne forte, ça énerve les gauchos et une partie de la gauche. Et on se dit, dans un moment, tiens, on va battre les Allemands qui ne cessent jamais de gagner. Enfin, on va s'imposer. C'est aussi ça qu'il y a derrière. Alors, il faut, bien sûr, raison garder. Moi, je vous avouerai que quand j'en ai parlé à mon grand-père, qui est revenu des camps de la mort, qui est un ancien résistant, il m'a dit, écoute, ton histoire d'Allemagne et de France, c'est un peu... Mais enfin, quand même, il y a des banderoles au Parc des Princes qui ont été déployées quelques semaines après pour traiter Schumacher de capot.
Alors, on y reviendra, effectivement, Schumacher, on l'a entendu, qui est le gardien de but allemand, a vu sa vie aussi transformée en enfer, mais on l'écoutera un petit peu plus tard dans l'émission. Avant d'aborder le match, est-ce que vous pouvez nous expliquer les soupçons qui pesaient sur l'équipe allemande lors de son match avec l'Autriche?
Aujourd'hui, c'est plus que des soupçons, c'est-à-dire qu'il fallait éliminer l'Algérie. Je vais vous raconter une anecdote qui est assez peu connue, concerne cette équipe d'Allemagne qui va jouer contre l'Autriche et qui gagnera par un petit score, 1-0. Il y a eu des négociations très claires pour éliminer l'Algérie.
Mais donc c'était un match truqué pour que l'Algérie ne progresse pas dans la compétition.
En tout cas, ce qui est certain, c'est quand Lothar Matthäus, futur ballon d'or et tout jeune joueur, rentre sur le terrain face à l'Autriche et court comme un lapin pour, bien sûr, mériter ses galons, eh bien, on lui tape dans le dos, c'est Breitner, le fameux vrai-faux rebelle de bac à sable et qui lui négociait justement avec l'élimination de l'Algérie. Il lui dit, dis donc, t'es gentil, t'as pas vu qu'on jouait pas ou très peu. Donc voilà, ça c'est une anecdote. Oui, il y a eu volonté de ne pas marquer trop de buts pour éliminer l'Algérie.
Alors, ce qui est quand même fou aussi, donc là vous nous dites que c'était un match truqué, mais bon, c'est passé... c'est passé crème, comme on dit.
Oui.
Et alors, c'est aussi, pendant ce match dont on parle ce soir, ce fameux 8 juillet 82, il y a aussi une succession de fautes et on s'en est pris aussi à l'arbitre. C'est-à-dire que c'est comme si cette Coupe du Monde, et ce match auraient pu avoir une tournure différente si à un moment donné, l'arbitre avait appliqué son autorité.
Laissez-moi le temps de vous répondre. C'est un autre monde, Flavie. C'est un autre monde que le monde d'aujourd'hui, fait de flux incessants, d'ultra-transparence, de vidéos, que moi, personnellement, je regrette, et ça fait longtemps que je le critique. Aujourd'hui, je lis Arsène Wenger, et tant mieux, qui critique le VAR et qui dit que ça défigure, finalement, le résultat sportif. C'est un autre monde. Nous sommes dans un monde à Séville, avec des joueurs qui sont épais comme des allumettes, ça pourrait être notre copain de récréation, très peu d'images, pas de contrôle sur le terrain. Et oui, il y a une faute, une première faute sur Platini, lorsque Rummenigge marque le but, une deuxième sur Gyrès, ou l'inverse. Oui, ce sont des choses qui auraient pu être sifflées. Et est-ce que le but en finale de Coupe du Monde en 66 a vraiment franchi la ligne quand Hertz a donné la Coupe du Monde en 66 au moment des Beatles à l'Angleterre? Écoutez, je vous le dis très trivialement, je m'en cague, hein, parce que le sport, il faut maintenir une forme d'incertitude. Parce que vous imaginez la vérité absolue, ça va être pénible. Hein.
Mais ça doit vous faire mal en ce moment.
Comment ?
Ça doit vous faire mal aujourd'hui alors, parce que ça n'a plus le même charme qu'avant.
Était dans un état, était dingo. C'est vrai qu'il aurait dû prendre un carton, il n'a même pas pris de carton.
Voilà.
Mais en même temps,
donc on dit que Schumacher,
mérité sa victoire.
Alors Schumacher, il s'est pris un pédo. Penalty de Platini. Et là, il a perdu les pédales. C'est quoi ? C'est la tension à un moment donné du gardien de but qui commence à se faire.
Il l'a dit, il n'avait pas fumé que la moquette avant le match, il était quand même un peu chargé. Il l'a expliqué.
Je ne savais pas, excusez-moi.
Il était dans un état limite. Hein. Il était très.
Il était un petit peu perché. Il avait fumé du cannabis.
Il était un peu beaucoup perché. Je ne connais pas dans le détail les substances, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il l'a admis. Il était quand même surexcité. Mais vous savez, comme les Allemands étaient chargés en 54 quand ils ont battu les Hongrois. C'est moins cet aspect-là qu'en effet, cette violence. Mais il n'y a pas eu. La violence n'était pas seulement contre Batiston. Il s'en est pris
à Platini.
Il s'en est pris à Rocheteau souvent. Il était très dans les contacts. Et là, c'est vrai que sur Batiston, c'est une véritable agression. Véritable agression. Il n'a même pas de carton. Il continue à. D'ailleurs, on le voit bien.
Mais c'était qui cet arbitre alors?
C'était un monsieur qui s'appelait Monsieur Corver et qui a manifestement pas vu l'essentiel, c'est-à-dire cette agression après ce ballon. Comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, j'étais impressionné, cette balle en profondeur.
Vous avez vu un peu
ce caviar aurait
Vous avez vu un peu bon, allez. Voilà. On se retrouve dans un instant parce qu'effectivement, Schumacher se prend un péno, il perd les pédales, mais dans un instant, le match historique France-Allemagne de l'Ouest 82 va basculer. On est en direct dans Jour J. A tout de suite.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être fidèle à Jour J, foot en fil rouge ce soir sur RTL. Nous revenons sur l'inoubliable match France-Allemagne de l'Ouest à Séville en 82. Alors, notre invité aujourd'hui est Pierre-Louis Basse. On vient de quitter France-Allemagne, on va dire sur un score de 1 partout à la mi-temps. Moi, j'ai l'impression d'être Philippe Sanfourche quand je parle comme ça. C'est quand même assez particulier. On a dit que le gardien allemand Ralf Schumacher est plutôt tendu et agressif. Donc, en fait, le match, il a basculé vraiment au moment où Batiston s'est retrouvé à terre. Je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé à ce moment-là. C'était à la 56e minute de ce match d'anthologie.
Bonne balle de Platini pour Batiston.
À côté.
Et encore une fois,
Schumacher.
Il n'a pas fait le voyage.
Non, regardez où il va mettre son pied, Schumacher. Regardez. Voilà.
Ah oui.
Jean-Michel Larquet a bien fait tout de suite. Alors, il faut savoir que c'est encore un ballon extraordinaire au laser de Platini pour Batiston. Il faut savoir que les joueurs, ça m'a été confirmé, c'est pas du tout du sensationnalisme. Quand j'ai écrit le livre, j'ai revu tous les joueurs. Ils pensaient que Batiston était peut-être en train de mourir.
Oui, mais c'est ça. Bon, en fait, les images sont extrêmement impressionnantes.
Il faut dire que Batiston, il y a deux images très fortes. D'abord, il y a le choc. Ensuite, il y a le capitaine qui est là, qui lui prend la main. Il y a quelque chose
qui l'accompagne
sur la civière. Qui transforme aussi Platini, qui restera cette image et qui l'emmène. Et Batiston, il est complètement dans le coltard. Les changements se font très rapidement. Hidalgo est au bord de la touche. Là aussi, c'était une autre époque, un autre temps. On pouvait être très près des joueurs. Et Gyrès me l'a dit, mais d'autres me l'ont confirmé. Il se met en place quelque chose avec cette agression de très irrationnel. C'est-à-dire que oui, Rocheteau dira, on avait la trouille, mais là, brusquement, avec la sortie de Batiston, pour lui, parce que Batiston n'est plus là et qu'il a été agressé, les joueurs vont tout donner. Et d'une certaine manière, ils n'auront Ils ne joueront jamais aussi bien de leur vie, j'ai envie de dire, pendant ces moments-là.
Donc ça veut dire qu'ils ont joué aussi avec la rage de la revanche.
Ah, oui, on le voit bien d'ailleurs sur un tacle. Je me souviens très bien, j'ai vu le match des milliers de fois quand j'écrivais le livre. Il y a un tacle terrible de Trésor sur un joueur allemand. C'est plus du tout la même atmosphère. Et surtout, ils ont peur. Ils ont très peur.
Vous parlez de Marius Trésor, justement. Ouais. La France, elle s'est réveillée magnifiquement, je dirais, grâce à Marius Trésor. Thierry Roland et Jean-Michel Larquet exultent, comme la France tout entière, évidemment.
Oui, Marius Trésor.
Oui, Marius.
Reprise de volée sur ce coup franc de l'Alain Giresse. Reprise de volée de Trésor. Et but à la 3e minute. But extraordinaire de Marius Trésor. Et 2-1 pour l'équipe de France.
Alors, 3e minute, comme effectivement le dit Thierry Roland, parce qu'on est dans les prolongations, là, pour le coup.
Absolument.
Voilà. Ouais. Et dans la foulée, c'est Alain Giresse qui va nous rejoindre dans un instant, qui justement marque.
Platini, Zic.
En retrait pour Giresse.
Il n'a pas vu.
Voilà, oui.
Oui, en retrait pour Giresse. Oui, bien joué. Giresse qui marque le 3e but sur ce centre en retrait. C'est Didier Zic. 3-1. 9e minute de la prolongation et les Français qui sont pratiquement en finale de la Coupe du Monde. Extraordinaire dénouement ici à Séville.
Et Thierry Roland vient de le dire, 3-1 pour la France, on est quasiment en finale.
Mais
là, on y croit.
C'est extraordinaire. Et la voix de Thierry, et aussi celle de Jean-Michel Larquet, sont comme des refrains qui passent le temps, vous voyez, aujourd'hui encore. Mmh. Et il y a une blague, je vous ai circulé un petit peu. On se disait finalement, Six, sur le terrain, qui était à gauche, avant de donner le ballon en retrait vers Giresse, il avait peut-être entendu la télévision, c'était Antenne 2 à l'époque, il avait peut-être entendu Jean-Michel qui disait « En retrait pour Giresse, en retrait pour Giresse !» Ça, c'est un truc qui revient, parce que c'est ce qu'il dit et c'est ce qu'il crie tellement fort qu'on pourrait se dire que peut-être Six a entendu, en tout cas, il a remis en retrait et Giresse marque.
Alors, Rummenigge et Fischer marquent. Ouais. Et là, pour le coup, on était à 3-1. Et là, on passe à 3-3. Ouais. Donc là c'est toute la dramaturgie de la situation. Ce que personne ne pensait possible a été fait, en fait. Les Allemands sont revenus au score.
Mais quand on a vu les remplacements de Rummenigge et de Rubetsch, on s'est regardé avec les copains dans notre pavillon en meulière de Épinay-sur-Orge. Les parents étaient partis, donc on pouvait faire la fête. Et là, on attaquait la deuxième bouteille de Boulawan. On était bien chaud, on avait 25 grammes dans chaque bras. Et on s'est dit, c'est fini. Ouais. On a vu les deux rentrer.
Là, vous vous êtes dit, c'est foutu.
On s'est dit, alors qu'on était...
Attendez, il y avait les tirs au but quand même après.
Mais on s'est dit, quand ils sont rentrés, et après, ils ont marqué.
Voilà, alors, ils ont marqué. Après, on passe aux tirs au but. Moi, je trouve que c'est terrible, les tirs au but.
Ah oui, c'est sûr.
Et je trouve que, alors là, pour le coup, je trouve ça atroce. Il faut toujours qu'il y ait un responsable dans l'équipe perdante.
Ouais.
Non mais c'est vrai. Alors je pense à Mbappé là au moment cet été à l'Euro, c'est super dur, il y a toujours quelqu'un qui devient responsable de la défaite. Qui a été le Mbappé en 82?
Alors non, c'est terrible, ce serait terrible de dire ça. Ce qui me fait plaisir, c'est que lorsque j'ai écrit le livre, je n'ai eu que des félicitations des joueurs et ça m'a touché, ça m'a beaucoup touché. Ils ont retrouvé cette séance de penalty.
Mais il est passionnant.
Il y a une info que Trésor m'a donnée et que moi-même je n'avais pas et que je sors dans ce livre. Une info, c'est celle de Six, Didier, pourquoi il lui a pris d'aller voir Platoche qui était en train de préparer de tirer son cinquième pénalty. Il lui dit, écoute, Michel, je voudrais tirer le cinquième. Et Michel lui répond, non, t'es gentil, tu vas tirer ton pénalty, c'est à toi maintenant, c'est moi qui le tirerai. Pourquoi est-il allé voir Michel? Ça l'a sans doute un petit peu déstabilisé, Didier. Six, il est parti en courant. D'abord, il est parti en courant tirer son pénalty. Et puis, résultat, il l'a manqué. Mais longtemps, on a dit, Six nous a éliminés. Non, ils sont deux à avoir raté. Il faut le reconnaître. Et hélas, Max Bossy, qui a fait un match lumineux, extraordinaire, le rate également. Donc ce sont ces deux manques.
Et on écoute Thierry Roland, justement.
Rubesch, Ettori, but. Et voilà, c'est fait. Par 5 pénaltys à 4, donc.
Que dire de plus alors que
les
Allemands se congratulent. Terrible.
L'équipe de France battue donc au pénalty. C'est la très très dure sanction de ce match de Séville, que nous ne sommes pas prêts d'oublier.
Les larmes de Séville, on revient dans un instant, on va parler de l'après-match qui s'est passé dans les vestiaires, parce que pour votre livre, Pierre-Louis Basse, vous avez effectivement, vous le disiez il y a un instant, retrouvé tous les joueurs qui vous ont raconté ce qui s'est passé. À tout de suite sur RTL.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
C'était le 8 juillet 1982. La France est donc battue en demi-finale de Coupe du Monde par l'Allemagne à l'issue donc d'une séance de tirs au but dramatique. On en parle avec vous, Pierre-Louis Baz. Vous êtes notre invité jusqu'à 21h et auteur du livre Séville 82, le match du siècle aux éditions La Petite Vermillon. Alors, côté France, on pleure dans les vestiaires. Pour ce livre, vous avez donc retrouvé tous les joueurs, hein, tous les acteurs hein, de cette grande soirée dramatique, de cette grande pièce dramatique sur la pelouse de Séville. Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté, les joueurs? Quels souvenirs est-ce qu'ils gardent de l'après-match?
C'est-à-dire que la tragédie de sport, puisqu'il s'agit de sport, il faut tout de même essayer de rester dans le raisonnable. C'est vrai qu'elle se poursuit. Elle se poursuit dans le vestiaire. D'abord, il y a des échanges de maillots qui se font pas. Enfin, finalement, Platini aura le maillot de Klaus Fischer, mais les Allemands viennent pas frapper à la porte du vestiaire.
Voilà, ce qu'il faut expliquer, c'est que d'ordinaire, on s'échange les maillots.
Oui,
c'est ça,
on peut s'échanger les maillots, mais là, il y a un climat vraiment très tendu. Six n'en peut plus de pleurer. C'est Michel Hidalgo qui me le racontera. Ils sont obligés littéralement de le porter, de le mettre sous la douche, en effet, parce que il ne se rhabille pas. C'est le cas également de Gentilgana. Les insultes fusent. Il y a un ou deux joueurs allemands quand même qui réussissent à dialoguer. Et donc tout va se prolonger, bien sûr, après le vestiaire, vers l'aéroport. Mais c'est très tendu.
Alors, avant, on va quand même écouter Gentilgana qui s'exprime après le match parce qu'il remet l'arbitre en cause.
Je peux vous dire que tout le long du match, il a discuté en allemand avec Breitner. Et moi, comme je ne comprends l'allemand, malheureusement, je ne peux pas vous dire les propos qu'ils y ont tenus.
C'est-à-dire?
Mais disons, je ne pourrais pas dire que c'est un match arrangé, mais il a fait quelques fautes d'arbitrage et c'est dommage que ça ne soit préjudiciable.
Je reconnais la voix de Guy Kedia, un homme qui a compté pour moi, qui était à Séville.
Voilà, qui a interviewé Tigana.
Voilà, ils sont vent debout, ils sont fous de rage, et puis on est quand même tout près encore du match. Donc déjà dans le vestiaire, c'est compliqué, Hidalgo est obligé de prendre les mecs les uns après les autres, puis ensuite on va partir en effet pour prendre l'avion. Et il se trouve...
Alors, il paraît que c'était hyper tendu à l'aéroport. Vrai qu'après le foot, ça a failli devenir une sorte de ring de boxe.
Ça ne l'est pas devenu. Il y a quand même des joueurs qui ont calmé les uns et les autres. Mais c'est vrai que c'était compliqué.
Alors, pour ceux qui nous écoutent, il faut expliquer. Hein, Allemands et Français vont à l'aéroport pour reprendre des vols et poursuivre des vols différents. Et ils se retrouvent à l'aéroport. Donc là, il y a les équipes, les vainqueurs d'un côté et donc les Français, les perdants de l'autre. Avec en plus, après un match où il s'est passé plein de choses. Il y a Battiston qui est encore à l'hôpital.
Oui, alors les
Schumacher.
Les mots fusent. Ils sont juste l'un à côté de l'autre, sale connard, on va te régler ton compte, Schumacher, etc. Mais tout ça va tout de même rentrer très vite dans l'ordre. Vous savez, les footballeurs, on n'est pas sur un ring de boxe. Et d'ailleurs, les boxeurs se respectent. Il y a un moment où on revient à des choses raisonnables. Mais c'est vrai que l'ambiance était extrêmement tendue.
Alors, on parle ce soir d'un match qui a traumatisé les Français. Mais vous me dites, on est dans des choses raisonnables. Il y en a un qui a trinqué quand même dans cette histoire. Et il est du côté vainqueur. C'est le gardien de but, Harald Schumacher. Écoutez-le, il revient sur les conséquences de ce match en 2014 sur sa vie, justement.
Des menaces d'Allemands, de Français, on a menacé de me tuer, d'enlever mes enfants. J'avais des gardes du corps. Ce n'était pas une période facile pour moi non plus. Franchement, on m'a comparé à un nazi. Qu'est-ce que vous diriez si on vous traitait de nazi ?
Non, alors là, on est quand même super loin de l'esprit du sport.
Non, mais totalement. Hein. Mais il faut aussi savoir, on ne peut pas plaquer une histoire sur une autre, Flavie. C'est-à-dire que nous vivons une période d'époque où les anciens de la Seconde Guerre mondiale sont encore vivants. On est physiquement, on a un lien encore avec cette histoire. Donc, qu'il y ait des débordements de langage, comme je le disais au Parc des Princes, quand Schumacher vient jouer des banderoles, certes, mais les joueurs eux-mêmes, vous savez, les joueurs, ils ont une intelligence. Je ne supporte pas cette façon de dire, les footballeurs sont bêtes comme leurs pieds. Non, ils ont bien souvent une intelligence. D'abord, ce sont les sportifs de très haut niveau. Hein, aujourd'hui, ils parlent 3, 4, 5 langues. Donc, ils ont ce réflexe dans un premier temps du sportif, qui est meurtri. Mais ensuite, tout ça revient, bien évidemment. Même Battiston, finira par...
Je vous parle aussi du public, moi.
Le public, vous savez, le public, s'il était tout le temps et forcément intelligent, ça se saurait.
L'ambiance, elle était super tendue, on l'a bien compris, mais à tel point quand même que les politiques ont dû s'en mêler
de cette histoire. C'est-à-dire que François Mitterrand est en voyage officiel en Hongrie, il a rencontré d'ailleurs Janos Kadar, et il se trouve que le soir du match de cette demi-finale, il est dans un restaurant avec des tziganes, il est passionné, et il demande gentiment d'ailleurs à l'orchestre d'arrêter de jouer parce qu'il veut voir le match jusqu'au bout, et c'est très chaud, c'est Jacques Attali qui me le confirmera, l'ancien Sherpa de Mitterrand, c'est très très chaud, il va jusqu'au bout, et puis après le match, en effet, comme ça monte un peu, eh bien il y a un communiqué qui va être pondu par l'Élysée.
Mais ça, on n'avait jamais vu ça.
On n'a jamais vu ça, mais vous savez, encore une fois, j'en reviens au couple franco-allemand, c'est très chaud. En 54, quand l'Allemagne gagne, Adenauer, qui est le chancelier à l'époque, très vite s'exprime dans les journaux en disant « Bon, vous êtes gentil, c'est du foot, hein, parce qu'on est quand même là à peine 10 ans après la libération, l'Allemagne gagne la Coupe du Monde et vous avez quand même déjà des Huber-Alès et des Champs. Bon, » Eh bien, rebelote en 82, c'est-à-dire que là, comme il y a ce lien encore physique, eh bien ça, mais les débordements...
Il y a Paris Match qui titre quand même 3e guerre mondiale.
Oui, alors
là,
Paris
pour
Match,
le coup, ça met le feu aux poudres.
Oui, Flavie, il y a même un beau papier, une belle lettre de Francis Huster à Platini, et surtout un papier de Jean Caux, merveilleux voilà. Écrivain, ancien secrétaire de Sartre, qui titre le chagrin et le courage. Hein, je crois, ou les chagrins et les larmes, le chagrin et le courage. Qui est quand même une espèce de clin d'œil au film de Marcel Hoffus, Le chagrin et la pitié, qui est enfin autorisé. Donc vous voyez bien ce lien, même par les mots. Parfois c'est littéraire, parfois c'est bas de plafond, mais il y a un lien en effet qui existe toujours, parce qu'on est en 82. Voilà, tout simplement.
Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu Alain Giresse au téléphone. Vous l'avez vu pour ce livre, hein?
Ah, Gigi, mon amour.
Bon, bah dans un instant, c'est Gigi. Je ne sais pas s'il va accepter que je l'appelle Gigi. Mais en tout cas, on aura l'honneur de le recevoir dans cette émission pour revenir sur cette grande soirée. À tout de suite.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Voilà notre jour J spécial foot et les larmes de Séville qui se poursuit. Nous en parlons depuis 20h, mais les experts sont aussi et surtout ceux qui l'ont vécu de l'intérieur. Bonsoir Alain Giresse.
Bonsoir.
Je suis mais tellement heureuse de vous entendre. Je pense à mon papa. J'ai tellement de souvenirs de matchs avec vous quand j'étais petite. Pardon, hein, ça met un petit coup sur la cafetière, mais fallait quand même que je vous le dise. Parce que on vous a mais tellement admiré. Merci d'avoir accepté de nous accorder quelques instants. Qu'est-ce que ça vous fait de regarder aussi dans le rétroviseur avec nous ce soir et de revenir justement sur cette grande soirée, ce match donc Séville à Séville, à France-Allemagne 82?
Ah, vous faites revivre un moment plus qu'important au-delà d'un match de football de Coupe du Monde, d'une demi-finale, avec cette possibilité d'aller en finale pour l'équipe de France, voilà. Et puis un match chargé de tellement de moments un peu tellement émotionnels que voilà, ça ravive cette période-là, qui c'est sûr qui laisse un souvenir énorme parce que mélangé de tous ces voilà, de la joie, le désespoir, la crainte, enfin bon, il y a tout eu dans ce match.
Mais alors justement, en termes d'intensité et d'émotion, où est-ce que vous placez ce match dans toute votre carrière, Alain Giresse?
Numéro 1
ouais.
Numéro 1, bien sûr, oui.
Plus non, que 84 en finale de l'Euro?
Oui, vous m'avez parlé en termes d'émotion, de ce qu'il peut représenter. Il est évident qu'une finale, comme vous l'avez dit, champion d'Europe, voilà, c'est un match gagné, un titre sportif, ô combien apprécié, ça c'est une évidence. Mais Séville, vous savez, c'est Séville, en plus, c'est plus une ville, c'est un match, Séville. Voilà, et on a tellement... L'intensité émotionnelle qu'on a vécue, rien ne peut l'égaler à ce jour.
Pierre-Louis Baz, vous aviez retrouvé. Hein,
oui, Gigi, ouais.
Voilà, Gigi. Bah, excusez-moi, je vais vous appeler Gigi. Si j'avais imaginé un jour vous appeler Gigi, Alain Giresse.
Ça fait ça. Il n'y a pas de souci.
Qu'est-ce que je suis heureux de t'entendre, Gigi.
Ça va, Pierre-Louis. Bah,
je vois que
la même belle voix.
Je vois que tu ne bouges pas parce que je t'ai vu, tu as joué avec le président, là, avec le variété, tu es affûté, c'est de la folie, quoi. Bon, ça passe vite. Merci à Flavie de nous permettre de nous parler. J'ai couvert une Coupe du Monde en Italie avec Gigi. Il n'en revenait pas, il se demandait si les voisins n'allaient pas venir nous engueuler parce qu'on enregistrait les papiers le soir très tard. J'irais s'il avait envie d'aller bouffer ses graines. Gigi, moi j'ai juste une seule question. Longtemps tu nous as dit, je mets la cassette mais je m'arrête à un moment donné.
Alors attends, ça veut dire quoi ça?
La cassette du match, Séville.
Ah oui d'accord, ok. Ah oui. Alors non. Oui, parce qu'il fut un temps, on regardait des cassettes pour les jeunes qui nous écoutent, on regardait des VHS dans des magnétoscopes, les gars.
Oui, je voulais dire DVD. Ou...
Voilà.
Non, vous regardez Vous regardez ce match, Gigi?
Oui, mais plus en cassette. Mais non, mais donc sur avec la nouvelle technologie. Non, effectivement, ce que veut dire Pierre-Louis, c'est que évidemment, on a toujours envie de revenir sur un match. Et j'ai commencé à regarder ce match, et puis le dérouler. J'arrive à mon 3e but, et je savais derrière fatalement que ça allait se passer. Et j'étais tellement pris par tout ça que j'ai dit stop, t'as 3-1. Non, je peux plus, parce que derrière, à partir du 3e but. Ouais. C'est de la douleur, quoi. Ça fait mal. Alors on stoppe, j'arrête là, et puis Et puis, j'ai jamais été plus loin que ça.
Oh, qui, c'est trop mignon.
Je voudrais que tu te rendes bien compte dans ta petite tête bien faite, Gigi. Oui. Je voudrais que tu te rendes bien compte que quand tu marques ce but, nous, oui. là, on a 20 piges. Ouais. On a 20 piges. Je savais pas à l'époque que je te rencontrerais. Tu marques, t'as un visage. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? On dit souvent c'est comme les rockstars devant le public, mais t'es dans un état.
Racontez-nous.
Dis-nous.
Non, mais c'est d'abord parce que c'est totalement spontané, quoi. Il y a aucune préparation à ce que je fais, l'excitation de la jouissance de ce but là, tout d'un coup, on peut pas se maîtriser, quoi. Ça explose et ça passe partout, quoi. Là aussi, je disais. Sur un terrain, je l'ai vécu qu'une fois, ce genre de moment. Voilà. Et puis, je cours comme un dératé. Et puis tout le monde m'en parle tout le temps. Effectivement, c'est une image. Voilà, mais c'est exceptionnel. J'ai eu la chance de connaître et de vivre ça, c'est sûr.
Voilà, c'est ça qui est très beau et que l'on entend dans votre voix. C'est effectivement de gratifier le temps qui passe et les souvenirs, finalement, que ces matchs, les victoires comme les défaites, ont imprimé dans votre vie. C'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, vous nous parlez d'un sport magnifique, là.
Oui, mais parce que moi, j'ai toujours considéré que le football, j'étais un joueur et que c'était une passion, et c'est ce qui a toujours guidé ma carrière, la passion de ce sport. Je l'ai encore. Pierre-Louis parlait d'un match que j'ai joué il y a quelques jours. Si j'ai pas la passion, je vais pas courir sur un terrain de football d'accord vouloir taper un ballon, parce que voilà, c'est tout un ensemble. Et puis j'ai pris conscience, et vous me l'avez démontré, ce que on a pu vous apporter.
Mais oui.
Et vous m'avez dit l'un et l'autre de me dire oh ben on a vibré là-dessus, sans s'en rendre pas compte sur le moment. Oui. Et maintenant, quand les gens vous venez de me le témoigner, et d'autres personnes qui m'interpellent me parlent de ça. Et ils commencent toujours par me parler de Séville quand ils veulent me parler de football. C'est une art, ces moments-là, etc., etc. Voilà, c'est magique, quoi.
En tout cas, je vous remercie. J'aurais bien aimé savoir si le président est un bon joueur de foot, mais le temps presse et on a un match de foot en direct sur RTL. Alors, vous pouvez me répondre par oui ou non. Est-ce qu'il est bon, Emmanuel Macron?
Il voit très bien le jeu, il a très bonnes idées pour le jeu. Après, la réalisation est améliorée.
Très bien, j'espère qu'il nous écoute et le message est passé en direct sur RTL. Merci beaucoup.
T'embrasse,
Alain Giresse. Au revoir Alain, merci beaucoup. Merci beaucoup Pierre-Louis Basse d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle votre livre qui a passionné les équipes, Séville 82, France-Allemagne, le match du siècle, en poche aux éditions La Table Ronde, et Rien n'est perdu également aux éditions Je cherche Midi. Merci à vous Pierre-Louis Basse.
C'est moi qui vous remercie.
À bientôt sur RTL.